Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 mai et je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière émission en direct de la semaine. Émission évidemment qu'il y aura vendredi, mais qui ne sera pas en direct celle-là, donc c'est pour ça que je souligne ça ainsi. Et émission avec Andy aussi, dernière de la semaine. Salut Andy.
Salut Marie, ouais, c'est ma dernière car moi je ne serai pas là, enfin même dans l'émission de vendredi je ne serai pas présent.
Très bien. Et donc, on va pouvoir parler, en tout cas, on va parler sport aujourd'hui avec les boucles de la Mayenne. Les boucles de la Mayenne, 47e édition. Ça commence demain et la troisième édition arrivera ici à Château-Gontier. C'est l'occasion justement de parler un petit peu de tout ce qui va être mis en place autour de cet événement et puis des retombées aussi attendues pour le territoire. On va parler aussi également du nouveau livre de Annie André qui nous le présentera en direct tout à l'heure. Et puis on va également entendre Swazik pour sa chronique Un autre écho de l'écho qui s'intéressera aux crypto-monnaies pour ne pas me tromper. On parlera crypto-monnaies donc avec Swazik. Et puis on entendra aussi un petit bonus des trois éléphants, tout ce que vous avez suivi ou à l'inverse peut-être manqué, ben on essaye de vous le faire revivre tout au long de cette semaine. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité avec toi Andy. Un livreur Uber Eats de Laval a subi des insultes racistes.
Les faits remontent au 14 mai dans la soirée. Une jeune femme de 18 ans aurait envoyé le message suivant. « Dépêche-toi, sale esclave, je vais te donner 15 centimes, tu ne mérites que ça. » Yaya Girassi, le livreur, en a rendu compte à Uber Eats et a porté plainte aux côtés de SOS Racisme. La prévenue a nié les faits et a accusé un ami qui connaissait le code de son téléphone d'avoir envoyé le message. Au final, après le procès qui s'est déroulé hier, la jeune femme écope de 1 000 euros d'amende pour injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion.
Un randonneur mayennais porté disparu dans les Hautes-Alpes.
Il ne donne plus de signes de vie depuis le 19 mai. L'homme âgé d'une soixantaine d'années serait connu pour être très sportif. Il serait parti seul faire sa randonnée. Des moyens aériens et un chien ont été engagés à sa recherche et sa voiture a été retrouvée près d'un chemin peu connu et non balisé. Aujourd'hui, aucune piste n'est privilégiée selon l'officier adjoint de police judiciaire, mais sa disparition est jugée inquiétante.
Le trafic de train entre Laval et Le Mans sera interrompu à partir de demain.
Et jusqu'au 29 mai, à cause de la création d'une nouvelle halte ferroviaire Le Mans Hôpital Université, elle servira à faciliter l'accès à l'hôpital et à l'université aux voyageurs. Le temps de ces interruptions, des remplacements par car sont prévus.
Et rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière du concours d'éloquence du collège Alain Gerbaud.
Ce matin avait lieu justement la finale départementale et deux élèves du collège Alain Gerbaud se sont démarqués. Marion Rocher et Amel Guillard finissent respectivement première et deuxième. Cet après-midi, place à la finale départementale des lycéens.
La région Pays de la Loire vient en aide aux covoitureurs âgés de plus de 18 ans.
Pour leur trajet domicile-travail, la région contribue à hauteur de 2 euros jusqu'à 20 km de trajet, puis ajoute 10 centimes par kilomètre au-delà. La contribution maximum est de 5 euros par trajet. Cette aide sera versée seulement si le départ et l'arrivée sont en Pays de la Loire et la réservation est faite par les applications suivantes, BlaBlaLines Daily, Caros, Klaxit et Mobicop.
Le Centre aquatique intercommunal du Pays de Cran organise une animation pour la fête des mers.
En collaboration avec les esthéticiennes du Pays de Cran entre le 27 et le 29 mai, une entrée bien-être achetée, c'est une entrée offerte pour la maman. L'entrée achetée permettra peut-être à la maman d'être tirée au sort pour différents lots, comme un produit et un bon de réduction chez les esthéticiennes partenaires. Tirage au sort lundi prochain.
Et puis vous pouvez voter pour votre tango préféré de la saison.
Sondage organisé sur le site du Stade Lavallois. Si vous voulez voter, il vous suffit d'aller sur stade-lavallois.com. Et au Tractu Foot, un Mayennais sera présent dans le corps arbitral de la finale de Ligue des Champions qui aura lieu samedi. Elle opposera Liverpool au Real de Madrid. Et il s'agit de Jérôme Brissard, il sera arbitre assistant vidéo.
Puis on reste dans le sport, ça n'était pas arrivé depuis plus de 15 ans. Château-Gontier est ville arrivée des 47e boucles de la Mayenne. La course cycliste commence dès demain entre Saint-Pierre-des-Landes et Andouillé, mais la troisième étape reliera samedi Saint-Berthevin à Château-Gontier. 188 km en passant par Housset, Bouesset, Saint-Denis-d'Anjou et Dans, entre autres, avant d'arriver à Château-Gontier à 16h45, où toute la ville pensera vélo ce samedi. Explication avec Yannick Ledroit, adjoint au sport de la ville, et Agnès Voisine, responsable des sports du pays de Château-Gontier.
C'est l'occasion de mettre aussi en valeur Château-Gontier-sur-Mayenne et bien sûr la communauté de communes. Donc en plus, puis ça va être un moment festif et donc on est très 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 heureux. Je crois qu'il va y avoir au moins une vingtaine de chaînes de télévision de France et d'étrangers qui vont être présentes, notamment l'équipe, avec des hélicoptères qui vont tourner, qui vont montrer un petit peu tout ce qui a, enfin tout le patrimoine de Château-Gontier. Donc on est hyper heureux. On a souhaité aussi, avec les boucles de Mayenne, faire un stand avec tout ce qui est attrait au vélo. Un espace convivial où enfin, les gens puissent se rencontrer.
Alors il y aura plusieurs animations, il y aura des structures gonflables pour les enfants, il y aura des animations vélos rigolos, des vélos un petit peu originaux que les gens pourront pratiquer, des vélos pour les enfants. On a aussi un stand sur le savoir rouler à vélo qui sera fait par les éducateurs sportifs du pays de Château-Gontier, des petits producteurs locaux qui seront présents, des animations aussi autour de la sécurité routière, avec un quiz qui sera mis en place avec la sécurité routière. Des élus aussi du groupe mobilité qui expliqueront aussi les voies douces et les mobilités douces praticables sur le pays de Château-Gontier, sur la ville aussi de Château-Gontier. Pas mal d'animations.
On est heureux de voir le Vélos Club nous aider. Enfin, quand je dis nous aider, c'est peu dire. Parce qu'au niveau des bénévoles, il y a à peu près une soixantaine de bénévoles, enfin de chez eux et d'autres associations, qui vont participer à la mise en place de cette course. Je pense que ça va être un plus pour les restaurateurs, pour les hôtels, les auberges et compagnie. Donc je pense que, à mon avis, je pense qu'ils feront le plein pour ce week-end. Il y a quelques endroits, je dirais, plus ou moins stratégiques pour regarder la course. Ça passe sur Coudray, dans Ménil. Donc sinon, c'est assez vallonné. On va voir la Jaillivon. C'est assez vallonné. Je pense que les gens pourront se mettre à un endroit et pourront voir arriver les coureurs d'assez loin. Et également aussi le long de la Mayenne, les personnes pourront se mettre et voir notamment du côté de la Rocheneuville. La Rocheneuville et revenir le long de la Mayenne, donc ils pourront se positionner là et passer un bon après-midi, je pense.
Une bourse au vélo sera aussi organisée toute la journée dans le centre-ville. Pour y participer, vous pouvez envoyer vos noms, prénoms et numéros de téléphone par mail à bourseauvélo au pluriel @chateaugontier.fr. Et attention, la circulation en voiture sera interdite en centre-ville ce samedi.
Et on va passer à l'interview avec Annie André qui est présente en studio. Elle va nous parler de son premier roman Ombre et Lumière. Juste avant, on écoute I Got de Deluxe. Can't make this news a win. I got rules, I got way. I can flip this over quick. I got tools, I got tricks. I can't make this news a win. I got rules, I got way. I can flip this over quick. Sick of fixing me to come fantasy, sure as size 3. Point one, four, or five, I come alive, my baby, die for free. Walk a stick, dramatic team, dancing like you never seen. It's like you never seen. Panorama gamma beam, trying to be a plasma screen. My mean, I got tools, I got tricks. I can make this lose a win. I got rules, I got bait. I can set this over quick. I got tools, I got tricks. I can make this lose a win. I got rules, I got bait. I can set this over quick. In tongs, I got the bomb in my palm, but not too strong. I hit the bong in my thumb. Where did I become? I'm lippy calm, lippy calm, lippy calm. I finally found an oasis in between the highest pinnacle and place, a temple cream. I fit the regular place, that's what I mean. Yes, I'm a boss like you ain't seen, never seen. I got tools, I got tricks. I can break this news a win.
so heavy, almost as heavy as my balls. And I must say, I'm having such an amazing time with you tonight. I'm gonna rap super fast. Like in a cold blast, such a thing. Attack of the cobra, venom sting. Give me the loot, looking for poop. I took my flute, they'll let this in. I spill, I spit till you get sick. I'm back for it to end. Set fire to the strike, it ends. Devour all your odds, it is. Boy, you never bling, you know it, boy, you never bling. And your sentiment is borderline incredible. Boy, you never bling.
C'était Deluxe, I Got, dans l'agité du local. Vous êtes bien toujours à l'écoute de l'autre radio. Et c'est le moment de laisser la parole à notre invitée aujourd'hui, Annie André, que nous avons invitée pour parler de son premier roman Ombre et Lumière, qui est paru il y a quelques semaines. Annie André qui sera en dédicace ce samedi à 10h à la librairie Émile Anjou à Château-Gontier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue aujourd'hui pour parler de ce premier roman, donc Ombre et Lumière, je le disais, c'est son titre. Forcément, lors d'un premier roman, on se pose toujours cette question. Qu'est-ce qui vous a amené à sauter le pas, à prendre la plume, comme on dit, de manière un peu surannée peut-être?
Alors, pendant ma vie professionnelle, j'avais écrit un petit bout de texte. Et puis, maintenant, en longues vacances, j'ai retrouvé ce texte et je me suis dit, mais pourquoi pas le continuer? Voilà. Puis les circonstances de la vie m'ont amené à rencontrer un écrivain qui m'a encouragée, qui m'a donné une profusion de conseils. Donc j'ai pris plaisir et puis vraiment, plus j'écrivais et plus je trouvais... plus je trouvais le fond de l'histoire, quoi.
Est-ce que, oui, on peut apparenter ça presque à une forme de sport, dans le sens exercice, c'est-à-dire que plus on écrit, plus on a envie d'écrire, ça marche comme ça?
Pour moi, ça a marché comme ça, oui. Oui, ouais, j'arrivais pas à quitter mon ordi, et puis même la nuit, j'avais un petit calepin à côté de moi, et j'écrivais les idées que je remettais en place, évidemment, le lendemain matin. Mais en fait, oui, ça a été ça.
C'est vrai qu'on a parfois cette idée que, oui, vraiment de l'auteur ou l'autrice vraiment plongée dans l'histoire, ça a été votre cas aussi, c'est vraiment les deux pieds dedans et on ne pense qu'à ça,
qu'à ça. Effectivement, on pense qu'à ça. Et alors c'est franchement une aventure, c'est extraordinaire, on invente les personnages, on les fait mourir, on les fait vivre, on les fait danser, rêver, c'est plein de couleurs, c'est chouette.
Et donc c'était vraiment une première en tout cas pour ce livre. Peut-être qu'on peut déjà pour commencer tout simplement dire un petit peu de quoi ça parle, ombre et lumière. Il est question de voyage pas mal, c'est ça?
Les questions de voyage. Alors de toute façon, la vie est faite d'ombre et de lumière. Et c'est vrai que j'ai pas mal voyagé. Alors j'ai profité de ces voyages, bien que ça se passe dans différents pays, notamment l'Inde, puisqu'on va l'évoquer. Là, j'y ai vécu longtemps, j'y suis allée une trentaine de fois, donc j'ai vécu plein de choses avec des gens merveilleux. Et en fait, pour moi, écrire, c'est aller à la rencontre des gens. Comme dans mes métiers que j'ai fait, puisque j'étais styliste, voilà, donc j'ai rencontré plein de gens en Inde, et c'est là où l'histoire a commencé dans ma tête, certainement. Et j'étais aussi commerciale dans le béton, donc là j'ai rencontré plein de monde aussi. Et pour parler de l'Inde, oui, c'est des gens que j'adore, qui m'ont sauvée, parce qu'il m'est arrivé, j'ai eu des petits problèmes là-bas et ils m'ont sorti de plein d'histoires. Mais c'est un pays merveilleux, merveilleux de couleurs, de sourires, de dureté aussi, parce que c'est très difficile. Mais ça a été effectivement, vous allez retrouver un peu le sujet, oui, dans mon livre.
Donc on retrouve justement, oui, l'Inde, ces lieux, enfin, vous en êtes inspiré, dans quelle mesure justement on peut le retrouver là-dedans, dans ce livre ?
Alors, je m'en suis inspirée, on va dire que c'est plutôt lui qui est venu à moi, c'est l'Inde qui est venu à moi. Et au fur et à mesure que j'écrivais, c'était très fort en émotion, car je retrouvais même les gens que j'avais rencontrés et qui m'ont aidée à cette époque, c'est-à-dire en 2003, donc c'est pas d'hier, et les noms et les mots me revenaient. C'était impressionnant, oui.
Ah oui. Oui, donc ça a été vraiment aussi l'occasion de repenser à des choses, de vous replonger là-dedans ?
Ah, complètement, complètement, oui. Les émotions sont remontées. Oui.
Et oui, vous pensez à quoi en premier, justement, quand on vous dit, vos séjours en Inde, votre vie peut-être sur place, je ne sais pas,
c'est les gens.
Plusieurs années.
C'est ouais. Les gens, oui. Quand on me demande, c'est beau, je dis les gens, oui. Oui, c'est franchement aller à la rencontre, je crois, écrire.
À l'inverse, du coup, de, encore une fois, un autre cliché qu'on peut avoir de l'écrivain un peu reclus qui écrit des pages et des pages dans un bureau complètement fermé. Là, vous dites, mais non, à l'inverse, là, l'écriture, c'est vraiment les rencontres.
Ah oui, ça a été une belle ouverture, oui.
Est-ce que vous avez pris des témoignages ? Comment ça s'est passé très concrètement ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. J'ai raconté un peu les choses que j'avais vécues, pas dans tout le livre, puisque c'est un roman, c'est l'histoire d'une femme effectivement qui raconte sa vie sur les rencontres qu'elle a pu faire. Donc il y a beaucoup de chaleur humaine dans le livre.
Et donc, qu'on comprenne bien, ou en tout cas qu'on donne des petites pistes, puisqu'évidemment, on ne va pas raconter tout le livre, mais
non.
Est-ce que toute l'histoire se passe en Inde ou dans plusieurs pays ? C'est mouvant aussi ? Comment est-ce que vous décririez ça ?
Alors, elle se passe dans divers pays, parce que c'est une traductrice, elle veut rencontrer le gars pour qui elle travaille, pour qui elle traduise ses fameux livres. Donc elle part aussi en Égypte, elle part en Espagne, elle part en Grèce. Donc on voyage beaucoup, toujours à la rencontre de l'autre.
Et pour ces pays-là, justement, donc l'Inde que vous connaissez bien, vous disiez la Grèce aussi, ça c'est des pays que vous connaissez déjà ou vous êtes un peu...
Alors j'y suis passée, oui, j'y suis passée. Les histoires qui sont écrites ne sont pas les miennes, mais dans ces pays-là... Mais j'y suis passée, oui. Et pareil, j'ai fait des rencontres extraordinaires.
Et là, de les mettre aussi en valeur, d'une certaine manière, dans le livre, c'est un peu un aboutissement ? Comment est-ce que vous décririez ça ?
C'est vrai. Oui, c'est un aboutissement. J'avais besoin de mettre ça sur papier. Ouais. Bon, d'ailleurs, quand je raconte mes voyages, parce qu'il m'est arrivé... je pars toute seule, un sac à dos. Donc, il m'est arrivé des choses, effectivement. Et quand je les raconte, « Oh, tu devrais écrire. » Mais bon, voilà, ça y est, c'est arrivé. Je n'ai pas écrit, effectivement, tout ce que j'avais vécu en Égypte, ni en Grèce, ni tout ça. Où c'était des réelles aventures aussi.
Vous pensez à quoi comme anecdote, là, comme ça, qui vous vient ?
Alors sur l'Égypte, c'est incroyable. Je suis arrivée là-bas, sac à dos, je suis montée dans un petit hôtel au cinquième étage là, avec mon sac. Et quand je suis arrivée là-haut, j'ai rencontré quand même un Égyptien qui était marié avec une Française, puisqu'elle habite là, aux abords de la Sarthe. Et ils ont quand même une maison à Gosselies-Vien. En fait, je crois que j'ai une étoile, quoi. Je crois que j'ai une étoile. Et puis, on m'envoie vers où je dois aller. Et c'est du bonheur. C'est du bonheur.
Donc, même à des milliers de kilomètres, vous arrivez à retrouver des Mayennais dans vos voyages aussi.
C'était incroyable. Lui était égyptien, hein. Mais elle, je ne l'ai pas rencontrée, mais ça a été un accueil, évidemment, à bras ouverts. C'était formidable. Oui.
Vu qu'on parlait de l'Inde, là aussi, peut-être une histoire qui vous vient comme ça en mémoire ?
Alors, non, je ne vais pas les donner, parce que mes belles histoires, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, on m'a toujours portée, mais notamment celle qui me tient le plus à cœur est dans le livre. Donc, on ne le dira pas.
Mais sinon, on dévoile, dévoile tout de cette histoire. Une histoire que, justement, vous avez écrite assez rapidement, une fois que, puisque vous aviez déjà un canevas, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Le canevas était bien maigre, puisque, en fait, c'était un tout petit texte d'une demi-page. Oui, c'était maigre, ce canevas. J'ai fait un canevas quand j'ai repris le livre, parce qu'effectivement, je voulais aller vers une fin. Et puis, alors même si on a un canevas, on saisit les opportunités qui traversent l'esprit, l'imagination. Et voilà, moi, j'ai eu un canevas un peu bizarre, pas trop respecté.
Et c'est-à-dire que ça a pris du temps après toute cette écriture. Est-ce que vous avez pris du temps pas mal à relire, peut-être en faisant appel à vos proches, à d'autres personnes aussi, ou pas forcément?
Ça, c'est énorme. La relecture, c'est énorme. Alors pour l'écrire, j'ai mis, 9-10 mois, un vrai accouchement, quoi. Voilà.
Exactement, donc ça aussi c'est une étape très importante en plus de l'écriture.
La relecture, c'est énorme, 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 énorme.
Est-ce qu'il faut faire attention à quoi? Est-ce que ce soit cohérent? Qu'est-ce qui guidait justement cette
On n'en est même plus là, en fait. Quand on corrige, c'est au niveau de la ponctuation, c'est au niveau des écarts de texte, c'est la pagination, c'est franchement très lourd. Mais j'ai adoré, ouais.
Oui, c'est un autre aspect finalement aussi.
Je suis allée jusqu'au bout, en fait, oui.
C'est ça, d'être donc jusqu'au bout vraiment de l'édition en tant que telle. Comment ça s'est passé là aussi?
Alors justement, par le biais d'un ami, j'ai fait connaissance avec une imprimerie qui, là, j'ai été 8 jours en travail avec elle parce que la pagination n'était pas correcte. Moi, j'avais travaillé sur du 21-29-4 et non, j'étais à côté de la plaque complètement. Mais j'ai appris et ça a été très intéressant. Et voilà, donc c'est une auto-édition, on va dire.
Ici, en Mayenne ou pas forcément?
Non, c'est pas en Mayenne, c'est loin.
D'accord, mais il y a eu en effet cette auto-édition. Et là, de la première fois que vous l'avez eu entre vos mains, justement, le livre, qu'est-ce que ça procure après avoir passé des heures et des heures, des jours, des mois?
On pleure.
C'est vrai, c'est la première réaction que
vous avez. C'est magique. C'est magique. Et je suis repartie sur un autre.
Ah oui, c'est vrai, déjà.
Oui. Rien à voir, complètement différent, disons que c'est plutôt fantastique.
D'accord, donc pas du tout la même ambiance que le
du
premier.
Du tout.
Mais est-ce qu'on passe facilement à autre chose après que il soit enfin paru?
Je ne sais pas comment c'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Voilà, j'ai ouvert mon ordi, j'ai commencé à...
Est-ce qu'on peut se dire après, on peut avoir besoin d'une pause, mais non, finalement vous êtes reparti.
Ah oui.
Parce que ça fait du bien aussi, ça vous fait du bien aussi, j'imagine, d'écrire. Et quand on a déjà les idées dans la tête, il faut
c'est
pas
du bon, ouais. On les saisit, les là, ouais, c'est du bonheur. Ouais.
Et donc, en tout cas, avant de voir ce deuxième livre fantastique qui est déjà en écriture, il y a forcément ce livre, ce premier roman, Ombre et Lumière, qu'on peut trouver dans les librairies ici en Mayenne. De savoir que vous êtes lu aussi, c'est différent encore, là, pour le coup, de savoir qu'on est lu, qu'on peut avoir un regard critique, par définition, des lecteurs.
Et je l'attends. J'attends ce regard critique, tout à fait. Oui.
Est-ce que ça, justement, ça vous fait plaisir? Ça vous inquiète? Vous en avez besoin, justement, de ce retour aussi? Comment est-ce que vous vous positionnez?
J'ai pas envie d'être dans l'inquiétude. Je ne voudrais pas gâcher ma part de bonheur que j'ai eu à faire tout ça. Et puis, chacun est libre de... Et on est tous différents dans notre tête. Donc, effectivement, je suis sûre que, ça peut paraître simple... ou enrichissant, l'un et l'autre. Mais chacun appréciera à sa manière ou non. Et puis, mais ce sera un enrichissement pour moi de savoir.
Oui, d'avoir justement ce retour, en tout cas. Je l'ai dit au tout début de l'interview, lors de la dédicace samedi ici à Château-Gontier et Mirenjou. Est-ce qu'il y a d'autres séances d'ailleurs qui sont prévues dans les prochaines semaines, en juin ou cet été, ici en Mayenne?
Alors en Mayenne, Aime-lire à Laval, ce sera en septembre, je pense, parce que là, il était chargé en dédicace. le monsieur qui tient Emelire là. Et puis, je suis allée aussi à la Loupiote, à Housset. Et puis à Keulen, dans un petit café, où ça a été vraiment sympathique aussi de rencontrer les gens. Et je pars dans 2 semaines à la Tranche-sur-Mer, où j'ai passé beaucoup de temps aussi là-bas, j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai joué aussi une pièce de théâtre dans des cinémas. Donc l'ami qui tient ces fameux cinémas m'a organisé, bah, évidemment, 3 jours de dédicace. Donc ça va être des retrouvailles merveilleuses aussi là-bas.
Donc très attendu aussi, j'imagine.
Oui, moi de mon côté aussi, j'ai vraiment envie de les voir. Je ne les ai pas vus depuis 3 ans, là, à cause d'eux. Hein. Et, mais là, ça va être du bonheur de se retrouver.
Et vous parliez de théâtre, c'est encore une autre forme d'expression, là, pour le coup, par rapport à l'écriture, que
oui,
vous connaissez depuis
oui.
peut-être un peu plus longtemps.
Alors, j'ai en fait, quand je suis rentrée d'Inde, en 2013, je suis tombée par hasard aussi en rangeant un peu ma maison parce que quand je passais très très vite, c'était le bazar. Donc je suis retombée sur un texte que j'avais trouvé à Paris et j'ai décidé de l'apprendre pour travailler ma mémoire. Je me suis dit, est-ce que ça marche encore là-haut? Et puis on a monté une pièce de théâtre, un seul en scène, avec une amie qui n'est plus là aujourd'hui. J'ai une pensée là pour elle. Et voilà, donc je l'ai joué 40 fois et ça a été aussi une aventure, une autre, mais c'était merveilleux, merveilleux. Et je continue à la jouer d'ailleurs. Hein.
D'accord, donc oui, ouais. Le théâtre, l'écriture en même oui. temps, beaucoup de choses, toujours beaucoup de projets.
Oui.
Et donc on pourra vous retrouver, je le rappelle, samedi à partir de 10h à la librairie Emelire en Joue à Château-Gontier. Merci beaucoup Annie et André d'avoir été avec nous pour donc nous parler de ce premier roman Ombre et Lumière. Merci.
Je vous remercie. Je crois bien que j'aime la vie en fait.
Très beau. J'aurais pas de meilleure conclusion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans quelques instants, la chronique de Swazik, un autre écho de l'écho. Mais avant, on écoute une autre chronique, celle de Cosmo Pike avec Chronique Sunshine. Because I've had enough of all this controversy. I've been affected and I can't lie, that shit quite frankly bothers me. She said, you're the man. I'm on together and I'm having doubts. We won't hurt you or all your plans. Paraphernalia and contraband. I wasn't allowed to, I was proud to come. Tons of germs and fuckeries in my lungs. All I'm saying is that's not me. It could be you for all eternity. Chronic sunshine's forever. I'm getting spat out of the bag.
is a train, yards quiet when you're using higher forces. Like gravity, I'm running faster than everyone. If I get caught, big money, I'm gonna be spending some. 8 cans, a bit of the plot thickens. Put my rucksack on the front to get the pain quicker. It's all about efficiency, picture me. Skinny jeans, running brown, where's your dickies be, man? Higher powers to catch you straight away. On a big fat suit, man, I fuck the gate away. Drug and hate mugs are getting bait. Let me set it straight, a real right, and let's just say he gets this pain. This ain't a rap for a girl or whatever, it's a rat wrapped up in my guilty pleasure. The fuck the ledger, I've already left the marks on my sweater. But I'll leave you with this, chronic sun shines forever.
C'était Chronic Sunshine de Cosmopike dans l'agité du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et comme chaque mercredi, tous les 15 jours, un mercredi sur deux, c'est la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui Soizic, on parle des crypto-monnaies, des bulles au carnage.
Et oui Marie, parce que nous assistons depuis quelques semaines à l'effondrement des crypto-monnaies. Alors, la plus connue, le Bitcoin, a perdu 50% de sa valeur et la Luna, quant à elle, a perdu 99,97% de sa valeur.
Alors, j'allais vous demander justement comment expliquer cet effondrement.
Eh bien, il faut d'abord se renseigner sur ce qu'est la crypto-monnaie. Alors, il faut savoir qu'il existe des milliers de crypto-monnaies, la plus connue étant le Bitcoin. Ce sont des monnaies qui ne sont pas créées par les États, contrairement au dollar ou à la livre, mais par des systèmes informatiques privés. Pour créer du Bitcoin, on dit miner, hein, d'ailleurs. Par exemple, il faut avoir un ordinateur extrêmement puissant et faire tourner un algorithme ultra sophistiqué qui va créer de la monnaie virtuelle. Tous ces mineurs sont en lien les uns avec les autres, complètement déconnectés du système bancaire classique. C'est donc une monnaie totalement privée. Soit dit en passant, cette production demande une telle énergie que c'est aussi une véritable catastrophe en termes de pollution numérique. Mais bon, pour utiliser les cryptos, il suffit de télécharger un petit programme gratuit, un wallet, ça veut dire porte-monnaie en anglais. Alors, avec ce wallet, vous allez pouvoir vous créer des comptes et, comme pour tout virement, vous donnez votre numéro de compte à vos clients ou à vos fournisseurs et les transactions peuvent intervenir. Chacune de ces transactions va être vérifiée par le système et sera enregistrée dans une gigantesque base de données, ce qu'on appelle la blockchain. Une fois enregistrée, cette transaction deviendra publique. Tous les utilisateurs pourront la voir. Autrement dit, là où dans notre système, ce sont les banques qui assurent la traçabilité des transactions, dans le cas des crypto-monnaies, cette traçabilité est assurée par une trace laissée dans les ordinateurs, notre blockchain. Alors, le système des cryptos repose donc sur un réseau de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs appartenant à toutes sortes d'organismes indépendants, des gens comme vous et moi, localisés dans tous les pays du monde.
Et qu'a-t-on à gagner à payer avec des crypto-monnaies ?
Eh bien, pour tout vous dire, pas grand-chose, à part une image de modernité. Mais en revanche, en détenir a fait la fortune de pas mal de gens, car leur valeur n'a cessé d'augmenter depuis leur création il y a une dizaine d'années. Le premier Bitcoin, imaginez-vous, créé en 2009, valait 0,001 $. Alors, comme tous les actifs dont la valeur augmente très vite, il s'est créé une bulle qui vient d'exploser ces derniers jours.
Mais Soizic, qu'est-ce qu'une bulle ?
Eh bien, pour comprendre ce qu'est une bulle, il faut d'abord savoir que ça peut concerner a priori tous les biens et les actifs financiers, dont les crypto-monnaies font partie maintenant. La première bulle spéculative connue a concerné les oignons de tulipes aux Pays-Bas en 1636. Et ces oignons atteignirent des prix astronomiques. Alors, l'immobilier, les objets d'art et surtout les actifs financiers sont les marchés les plus susceptibles de connaître ce phénomène. Je vous explique. Imaginez, Marie, que vous ayez de l'épargne dont vous ne savez pas quoi faire. Vous vous dites alors, tiens, je vais acheter des bitcoins parce que je suis sûr que cet actif financier va prendre de la valeur. Et dans votre entourage, d'autres personnes qui connaissent vos talents de spéculatrice vous font confiance et vous imitent. C'est alors que cette monnaie, dont vous pensiez que le prix allait augmenter, augmente réellement par votre action et celle des autres. C'est ce qu'on appelle en économie les prophéties autoréalisatrices. Mais comme avec le savon, une bulle finit toujours par éclater. En effet, un beau matin, et je vous jure hein, qu'un seul matin suivi, vous vous dites que la valeur de l'actif a atteint un sommet et que le point de retournement n'est pas loin. Finaude que vous êtes, vous vendez alors tous vos actifs, en l'occurrence vos bitcoins, pour engranger un maximum de bénéfices. Mais comme pour la fabrique de la bulle, votre entourage vous imite encore et tout le monde se met à revendre en même temps le dit actif. Plus personne ne souhaite en détenir, le prix chute et c'est un carnage complet. Là où les bulles mettent des années à se créer, elles crèvent en l'espace de quelques heures. Ce fut le cas de l'immobilier, par exemple, en 2009. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Les tensions sur les marchés financiers, la peur de l'inflation et la déstabilisation géopolitique engendrée par la guerre en Ukraine font que les investisseurs se reconcentrent vers des valeurs beaucoup moins risquées que les crypto-monnaies et les vendent à qui veut bien les acheter. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais quel sera l'avenir des crypto-monnaies? Parce que, certes, la bulle Internet de 2000 n'a pas tué Internet, mais il risque quand même d'y avoir malgré tout un sacré coup de ménage. Et comme lors de chaque crise, pas mal d'anciens riches pourraient devenir de nouveaux pauvres. C'est la dure loi du capitalisme. Mais la différence dans ce cas, c'est que les perdants sont aussi les responsables.
Eh bien, merci beaucoup, Swazik. Encore une fois, on va suivre ça d'un petit peu plus près maintenant avec, grâce à vos explications. Et puis, on vous retrouve dans une nouvelle chronique dans 15 jours. Merci beaucoup.
Voilà, donc, attention, n'investissez pas dans les cryptos en ce moment.
Voilà, là, c'est le petit conseil investissement du jour. Merci beaucoup, Swazik. Au revoir et à bientôt, évidemment, je le disais, dans 15 jours. On passe à notre mini feuilleton de cette semaine autour des bonus du Festival des Trois Éléphants qui s'éclôt dimanche à Laval, avec de nombreux concerts au programme, mais aussi des spectacles d'art de rue, comme celui de la compagnie Diptyque. Son nom, Mirage, un jour de fête, rencontre avec l'un des 8 danseurs juste après le spectacle sur l'esplanade du Château-Neuf, c'était samedi après-midi.
Vient de présenter le spectacle Mirage, un jour de fête à Laval, au Festival des Trois Éléphants.
Une première ici aux Trois Éléphants ?
C'est, ouais, je crois que c'est une première pour la compagnie. Moi, ça fait 7 ans que je bosse avec eux. Je crois que c'est la première. À chaud, c'est que le soleil tape. non, c'est le bon point du soleil. C'était hyper chaleureux, autant via la température que via le public. Et je pense qu'on était prêts. Nous, c'est la reprise de la tournée. C'est la tournée estivale qui commence. On a 49 dates exactement pour le moment, sans compter les options, donc c'est génial. Et c'est la première de cette tournée estivale, donc on était prêts, c'était chaud, on a pris du plaisir. En tout cas, moi, c'était très très bon, très bon dans mon corps. L'ADN du spectacle, c'est assez varié, mais c'est vrai qu'on s'est raconté, on s'est raconté plein d'histoires, mais si je me souviens bien, il y a une histoire, une première qui nous a marqué. En fait, on a voyagé avec la compagnie, on travaille partout en France, partout en Europe et partout dans le monde. Et on est parti il y a peut-être 4 ans maintenant en Palestine. Et on a rencontré des jeunes danseurs dans un camp de réfugiés à Balata. Et leur histoire, en fait, ils nous ont joué un spectacle. Ils nous ont présenté un spectacle de Dabke, qui est une danse traditionnelle issue du Moyen-Orient. Il y a ça en Palestine, en Jordanie, au Liban aussi, en Syrie, je crois. C'était hyper joyeux, hyper festif. C'était festif. Et après qu'on a échangé avec eux, ils nous racontaient que ce qu'ils dévoilaient dans ce spectacle, c'était leur quotidien qui est fait de joie, mais comme de peine aussi, comme de malheur, comme de difficulté surtout. Sauf qu'ils les racontaient via la fête. Donc ça nous a inspiré des premières discussions, parce que ça passe beaucoup par de la gamberge, par de la discussion pour créer les spectacles dans cette compagnie. Et si on peut résumer le spectacle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la forme festive ? Qu'est-ce qui se cache derrière la fête ? Voilà, avec un truc qu'on reprend, c'est une fête, la fête du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut cacher derrière la fête ? Là, il y a autant de lectures qu'il y a de spectateurs aujourd'hui, donc c'est ce qu'on aime faire en tout cas, c'est du spectacle vivant. Donc après, voilà, on est parti de ça, entre autres, pour écrire le spectacle, et ensuite, c'est votre propre lecture qui vivra.
Ça se ressent par la musique aussi, il y a quand même beaucoup de musique donc très festive, et puis d'autres beaucoup plus angoissantes, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Ouais, carrément, on a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Patrick de Oliveira, qui crée les bandes-sons de tous nos spectacles depuis le début, je crois. On crée en simultané, on crée la danse en même temps qu'il crée la musique, on se fait des échanges, c'est qu'une histoire de ping-pong avec la musique et c'est hyper plaisant et je pense surtout constructif pour l'écriture de la pièce et de l'identité de la compagnie dans sa globalité. Comme j'ai dit, on voyage beaucoup, donc ce qu'il fait lui, c'est qu'il voyage quasiment tout le temps avec nous et il va sampler des bruits, des instruments de musique, des voix dans les voyages, via les personnes qu'on rencontre, via les équipes artistiques avec lesquelles on échange. Du coup, il a une grosse banque de données, une grosse banque de sons et il va construire à travers ça, à travers nous. Et comme j'ai dit, c'est un ping-pong, c'est un vrai échange danse-musique qui se fait tout au long de la création de la pièce et des autres pièces aussi. Ouais, c'est hyper intéressant.
Interview en deux parties et la suite, ce sera vendredi où on va parler du décor aussi. Un choix loin d'être anodin et des interprétations de chaque danseur puisque, je le rappelle, ils sont 8 sur scène. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. Salut Andy, on se dit du coup à lundi maintenant.
Ouais, à lundi Marie, je vous souhaite un bon week-end à rallonge du coup.
Exactement, si vous avez, comme Andy et comme d'autres, un long week-end, vous souhaite un bon week-end, mais d'ici là, en tout cas, restez à l'écoute de l'autre radio, puisqu'à 19h ce soir, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 21h de Déclectic Jazz, avec la présentation de la 41e édition de Jazz à Vienne. Ce sera du 28 juin au 13 juillet. Nous, on se retrouve, non pas demain, mais vendredi, pour une petite émission, pas forcément en direct, mais on sera quand même là pour vous parler là aussi de l'actu en Mayenne et de ceux qui la font vivre. Donc je vous souhaite, en tout cas ça change pas, une très bonne journée à tous et potentiellement un bon week-end pour ceux qui en ont un.